Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors moi aussi, je suis parfois un peu visiteur. Il y a des gens qui m'appellent le revenant. Voilà. Alors, tout d'abord, je voudrais vous féliciter d'être ici. Parce que vous savez probablement qu'il y a quelqu'un de célèbre, le pasteur de MLK, qui se trouve actuellement ici. Vous auriez pu aller là, l'entendre, le grand pasteur, mais vous avez choisi d'être ici. Merci. Alors, vous vous êtes certainement aperçu que ce matin, on a beaucoup insisté sur la sainteté de Dieu. Est-ce que vous avez remarqué ça? Et nous avons chanté une formule qu'on utilise avant aussi dans nos prières, le Dieu trois fois saint. Mais est-ce que vous savez d'où vient cette expression? Parce que, littéralement, vous ne trouvez pas dans la Bible trois fois saint. C'est une expression, vous la trouvez au chapitre 6 du prophète Ésaïe, quand il a sa vision, quand il a son appel, il voit des séraphins, et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». Et vous retrouvez le même scénario dans l'Apocalypse, des quatre êtres vivants qui, jour et nuit, proclament la sainteté de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Et frères et sœurs, vous devez savoir qu'en hébreu, quand on veut exprimer un superlatif, on répète la chose. Par exemple, quand Jésus veut transmettre une vérité importante, il dit « en vérité », littéralement « Amen, Amen ». Mais ici, nous n'avons pas un simple superlatif. Nous avons ici trois fois l'adjectif « saint ». Et un commentateur a dit ceci, la sainteté de Dieu est tellement grande qu'il fallait inventer un superlatif. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ce matin, nous voulons être conscients de la sainteté de Dieu. Dieu cherche une église qui est sainte. Amen. Alors je vous invite tout de suite à faire une lecture parce que je n'ai que 2 heures à ma disposition. Donc, il vaut mieux que je me dépêche. Vous avez déjà le texte ici, nous allons lire un extrait d'un livre que j'aime beaucoup. Et vous savez que dans les chroniques, Dieu met l'accent sur sa maison, le temple. Alors ici, on n'insiste pas dans notre texte sur le temple, mais juste la prochaine fois que vous allez lire 1 et 2 chroniques, faites attention à ce phénomène. Alors nous allons lire chapitre 32 à partir du verset 1er. J'espère que vous êtes venus avec votre Bible ou peut-être votre tablette ou votre portable et nous allons lire ensemble. Après ces choses et ces actes de fidélité, parut Sanchérib, roi d'Assyrie, qui pénétra en Juda et assiégea la ville forte dans l'intention de s'en emparer. Ézéchias, voyant que Sanchérib était venu et qu'il se proposait d'attaquer Jérusalem, la capitale, tint conseil avec ses chefs et ses hommes vaillants afin de boucher les sources d'eau qui étaient hors de la ville, et ils furent de son avis. Une foule de gens se rassemblèrent et ils bouchèrent toutes les sources et le ruisseau qui coule au milieu de la contrée. Pourquoi, disaient-ils, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Ézéchias prit courage. Il reconstruisit la muraille qui était en ruine. Il l'éleva jusqu'au tour. Bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo, ce sont les terrasses qui se trouvaient dans la ville de David, dans la cité de David, voilà, et prépara une quantité d'armes et de boucliers. Il donna des chefs militaires au peuple et les réunit auprès de lui sur la place de la porte de la ville. S'adressant à leur cœur, il dit « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. » Est-ce qu'on peut dire cette petite phrase ensemble ? Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Est-ce que vous croyez que c'est aussi vrai aujourd'hui ? Alors, est-ce qu'on peut le dire encore une fois ? Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair. Donc, on parle du roi d'Assyrie. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Frères et sœurs, vous vous posez probablement des questions sur la signification de ce que vous trouvez là à gauche, « Civis pacem para bellum ». Alors, si vous avez perdu votre latin, dans ce cas-là, la traduction, la voici. « Si tu veux la paix, prépare la guerre. » Ou « Si tu veux la paix, prépare la guerre. » Et frères et sœurs, c'est exactement ce que le roi Ézéchias a fait. Quand il a été assailli par cette superpuissance politique et militaire qu'étaient les Assyriens, eh bien donc il a pris des mesures. Et ces mesures nous intéressent ce matin. Et nous voulons apprendre à travers les leçons que ce que Ézéchias a fait, nous voulons donc apprendre. Tout d'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que nous pouvons répartir notre texte en trois points. Nous allons tout d'abord parler un peu quand notre théologie et le vécu ne riment pas. Deuxièmement, si tu veux la paix, prépare la guerre. Et dans un troisième temps, nous voulons étudier un peu, brièvement du moins, le message d'encouragement du roi Ézéchias. Alors, on commence avec le premier, et je suis sûr que ce titre vous intrigue un peu. Quand notre théologie et le vécu ne riment pas. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Parce que notre chapitre commence avec ce que j'aimerais appeler une incongruité théologique. Pourquoi cela ? Eh bien donc, regardez bien la façon dont notre texte commence, et j'espère que vous gardez votre Bible ouverte, parce que nous lisons après ces choses et les actes de fidélité. Alors quand vous entendez une déclaration comme celle-là, donc logiquement, vous devez vous poser une série de questions. Après quoi ? Ensuite, après quel événement ? Et finalement, de quel acte de fidélité s'agit-il ? Et nous allons examiner cela. Alors, frères et sœurs, si vous voulez en savoir un peu plus, vous devez impérativement lire les chapitres précédents. Et je voudrais particulièrement insister sur ce qui est écrit au chapitre 31, à la fin, les deux derniers versets. Et vous allez voir, donc, vous avez affaire à un homme, un roi, qui ensemble avec Josaphat et avec Joas, faisait partie des hommes, des rois les plus pieux de Juda. Alors je vous invite, frères et sœurs, à lire ce passage à la fin du chapitre 31. Vous allez constater, notre ami Ézéchias était un véritable réformateur spirituel. Il a ramené le cœur de Juda à l'Éternel. Et maintenant donc, nous lisons ce témoignage vibrant en sa faveur. Voilà ce que fit Ézéchias dans tout Juda. Et maintenant, il y a trois points positifs qu'on dit de lui. Il fit ce qui est bien, Il fit ce qui est droit, ce qui est vrai devant l'Éternel son Dieu. Il agit de tout son cœur. Ce n'était pas donc quelqu'un qui agissait juste avec une certaine paresse, non, de tout son cœur. Et il réussit dans tout ce qu'il entreprit en recherchant son Dieu pour le service de la maison de Dieu, pour la loi et pour les commandements. Alors je pourrais résumer cela. Notre ami Ézéchias a mis la barre haut. C'était un fidèle imitateur du roi David, qui était donc son modèle, qui était son exemple et qu'il a voulu imiter. Et frères et sœurs, je voudrais insister particulièrement sur le fait que Ézéchias, il a développé une intimité avec Yahvé, son Dieu. Je voudrais juste citer ici ce que, et est-ce que ça marche ? Il ne s'appelle pas Roger Foster, je me suis trompé, il s'appelle Richard. Et de toute façon, donc, il est l'auteur d'un livre que je peux vous recommander chaleureusement, « Éloge de la discipline ». Et là, il écrit dans sa préface, « Le mal de notre siècle, c'est la superficialité de nos contemporains, un manque de profondeur ». Et frères et sœurs, je peux vraiment confirmer cela. Je constate dans nos milieux évangéliques une certaine superficialité, un manque de profondeur. Alors, nous allons voir encore un peu ce que Derek Prince a à dire. Et vous allez voir donc que les deux déclarations se rejoignent dans un certain sens. Parce que Derek Prince, un célèbre serviteur de Dieu qui est maintenant auprès du Seigneur, il dit, dans un monde où tout vacille, seule la connaissance intime de Dieu nous rend inébranlables. Trop souvent, nous cherchons Dieu plus quelque chose, comme le succès, la reconnaissance, un ministère. Pourtant, Dieu seul suffit. Est-ce que vous pouvez dire amen là-dessus ? Dieu seul suffit. Mais nous devons nous poser la question, donc, qu'est-ce qui se passe donc après ces choses et ces actes de fidélité ? Eh bien, il y a les Assyriens qui viennent, qui envahissent Juda, qui prennent possession des villes fortes et qui s'attaquent maintenant à Jérusalem. Et frères et sœurs, quand je lis cela, quand je prends connaissance de l'ensemble de la situation, je dis, quelle mauvaise surprise! Quelle touche froide! Alors, vous avez ici, frères et sœurs, donc, une drôle de façon de Dieu de récompenser son serviteur. Alors, n'oubliez pas, nous parlons lorsque notre théologie ne rime pas avec notre vécu ou avec le vécu en général. Frères et sœurs, quand vous voyez un homme comme le roi Ézéchias servir Dieu de tout son cœur, qui peut maintenant s'attendre à la grâce et à la bénédiction du Seigneur, et loin de là, il y a l'ennemi qui frappe à sa porte. Est-ce que vous ne voyez pas donc cette incongruité, ce décalage entre la théologie que nous avons de Dieu et donc de la Bible et ce que, ici, notre ami Ézéchias, il vit. Frères et sœurs, c'est donc le contraire de ce que nous dit Lévitique 26 et Deutéronome 28. Alors maintenant, je sais que vous ne savez probablement pas ce qui est écrit dans Lévitique 26 et Deutéronome 28, mais ce sont les deux longues listes des bénédictions et des malédictions. Et lorsque vous lisez le commandement, le Seigneur dit tout simplement, si tu m'obéis, si tu fais selon ma parole, voici les bénédictions qui seront ton partage. Ézéchias vit à la hauteur des attentes et des exigences de l'Éternel, et au lieu d'être au bénéfice de toutes les grâces, il y a l'ennemi qui vient et qui frappe à sa porte. Frères et sœurs, on pourrait dire qu'au lieu de bénédiction, Est-ce que ce n'est pas, ça ne donne pas l'air d'une punition, d'une correction, d'un châtiment? Alors, je m'efforce de trouver des explications, une explication pour ce phénomène. Qu'est-ce que le Seigneur voudrait nous apprendre? Parce que certainement, il y a des leçons à prendre quand le Seigneur agit contrairement à ce que nous croyons être biblique. Une première leçon que ce passage nous transmet, c'est nous ne devons pas être absolus et rigoureux dans notre théologie et dans l'application de notre théologie. Nous ne pouvons pas mettre Dieu dans une boîte. Est-ce que vous êtes d'accord quand je dis cela? On ne peut pas mettre Dieu dans une boîte. Il n'est pas l'esclave de certaines règles, de certaines lois. Il est Dieu. Et je voudrais juste vous rappeler un homme comme Job. Job, l'homme, le Seigneur lui-même, il fait la pupe pour lui devant le diable. Il dit 4 choses précieuses et vraiment élogieuses de Job. Entre autres, qu'il est intègre, qu'il est droit, qu'il évite le mal. Et pourtant, nous savons que Dieu, il agit contrairement à nos attentes. Nous dirions un homme qui est pieux comme Job, il ne mérite que le bien, que les grâces, que les bénédictions. Et pourtant, le Seigneur, il a permis qu'il perde ses 10 fils, qu'il perde ses troupeaux, qu'il perde ses serviteurs et finalement aussi sa santé. Alors, frères et sœurs, nous avons ici une deuxième explication. Non seulement nous ne devons pas donc être rigides dans notre théologie, mais nous devons aussi nous souvenir de la souveraineté de Dieu. Dieu est au-dessus de toutes choses. Alors donc, nous devons reconnaître qu'il est maître de l'univers et qu'il peut agir selon son bon plaisir. Alors d'autre part, frères et sœurs, le drame qu'a vécu Job nous confronte au problème de la souveraineté de Dieu. Alors le Seigneur permet, malgré la piété de son serviteur, qu'il perde tout ce qu'il a, y compris encore le soutien moral de son épouse, mais donc c'est la même chose avec Ézéchias. Le roi Ézéchias a également vécu ce décalage, n'est-ce pas, entre ses actes de piété, de fidélité, d'une part, et puis la réaction du Seigneur, d'autre part, que nous pourrions appeler donc contradictoire. Alors, ce matin, je dirais que j'ai un verset ou un passage biblique qui me sert d'appui, de réconfort, et ça c'est Ésaïe 55. J'ai marqué donc ce passage sur le... Voilà, alors tout d'abord, peut-être ça. Il y a 2 passages bibliques qui personnellement me soutiennent dans ma compréhension quand je suis confronté à un problème comme celui d'Ézéchias. Et d'ailleurs, il se peut qu'il y ait ici quelqu'un et tu luttes avec ce même problème. C'est-à-dire, d'un côté, tu t'efforces de faire le plaisir du Seigneur, de lui obéir, de marcher selon sa volonté, et d'autre part, tu vois des choses qui se passent dans ta vie et qui te semblent en contradiction avec la parole de Dieu, avec ses promesses de « tu m'obéis et voilà les bénédictions qui seront ton partage ». Alors ici, il y a 2 versets qui m'ont interpellé. Le premier, « Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom ». On pourrait dire, mais pour Ézéchias, ce n'était pas le cas, n'est-ce pas? Mais regardez, pour contrebalancer, nous avons la déclaration de l'apôtre Pierre qui dit, « Mes bien-aimés, ne trouvez pas étrange d'être dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. » Et par là, frères et sœurs, je voudrais dire que ce qui arrive à Ézéchias pourrait effectivement être une épreuve. Mais tout d'abord, Je voudrais quand même lire avec vous Ésaïe, chapitre 55. Alors, où es-tu? Non, je crois que je l'ai raté. Bon, je le lis pour vous. Et je vous demande de le lire pour vous-même, chez vous. Donc, il s'agit de Ésaïe 55, le verset 8 à 9. Et vous connaissez ce passage. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont au-dessus ou élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors, je dis que cette invasion d'Ézéchias par les Assyriens, donc pour nous, a quelques explications. Et la première explication que j'aimerais donner, c'est qu'effectivement, elle pourrait être tout simplement un test, une épreuve. Le Seigneur veut savoir ce qui vit dans le cœur de son serviteur. Autrement dit, Ézéchias, si malgré tes actes de fidélité, je ne te bénis pas tout de suite, je permets à l'ennemi de t'envahir, est-ce que tu me restes quand même fidèle? Alors, nous avons ici ces deux versets qui me sont un réconfort et une assurance. Et puis, j'ai encore une explication alternative, et celle-là, c'est que ce qui arrive ici à Ézéchias, l'invasion des Assyriens, c'est ce que les anglophones appellent, et donc ça ne veut pas venir, voilà, un wake-up call. Alors, les anglophones ici, vous savez ce qu'est un wake-up call. Nous pourrions dire, c'est un signe d'alarme, un électrochoc spirituel, un avertissement, un déclic, un coup de semonce. Et vous allez comprendre pourquoi je dis cela. À la fin, vous allez constater que finalement, ce qui semblait à nos yeux une incongruité théologique était une bénédiction pour le roi Ézéchias. Alors, quand je lis cela, quand je dis que ce qui arrive à Judas est un wake-up call, je dis que nous aussi, nous avons parfois besoin d'être sérieusement secoués pour notre bien spirituel. C'est tellement facile de s'enfoncer dans la paresse spirituelle et nous allons voir dans un instant encore ce que nous négligeons, n'est-ce pas? Alors, nous avons parfois besoin d'être secoués. Le Seigneur, il s'adresse à nous, parfois d'une manière un peu brusque, mais c'est toujours pour notre bien. Alors, je voudrais ainsi adresser le deuxième point, c'est-à-dire que si tu veux la paix, prépare la guerre. Parce que nous allons voir maintenant comment Ézéchias gère la situation, comment il gère l'attaque, l'assaillement des Assyriens. Un premier point que je voudrais souligner, c'est que le roi s'entoure de conseillers. La Bible nous dit donc qu'il a pris conseil auprès de ses grands, de ses vaillants. Frères et sœurs, Ézéchias nous montre l'importance de ne pas agir seul, surtout quand nous avons affaire avec des décisions importantes, avec des choix importants. Et je voudrais tout de suite donc citer ici un texte que vous trouvez. Alors, oui, les projets échouent faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Il était important parce que ça a donné un déclic pour les actions supplémentaires. Alors, tout d'abord, je voudrais encore m'adresser aux couples, frères et sœurs, donc couples, mariés. Si vous avez des décisions importantes à faire, soyez toujours tous les deux sur la même longueur d'onde. S'il y a désaccord entre vous, n'agissez pas. Attendez jusqu'à ce que vous ayez tous les deux la même conviction. Je pense maintenant à un cas où le mari, il annonce que, donc, qu'il quitte son travail pour entrer dans le ministère, soi-disant, il n'a rien dit à son épouse. Il a pris cette décision seul. Le résultat final était un divorce. Alors, prenez note de ce conseil-là. Quelle est la première chose qu'ils ont décidé de faire? Si vous regardez dans votre Bible, ils ont décidé de boucher les sources et le ruisseau qui coule au milieu du pays. Alors, le raisonnement, et vous pouvez le trouver au verset 4 de notre texte, pourquoi les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée des eaux en abondance? Et frères et sœurs, vous savez ce que cela veut dire? Judas ne voulait pas offrir un avantage à l'ennemi. Et cela me rappelle une parole pertinente de l'apôtre Paul, quand il dit ceci, « Afin de ne pas laisser à Satan un avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Alors, je voudrais parler un peu de ces avantages, de ces ouvertures, parce que nous aussi, peut-être avons-nous des ouvertures qui donnent des avantages à notre ennemi. Je voudrais ici citer juste un extrait d'un article que j'ai lu. Il était d'une servante de Dieu africaine. Elle a évoqué Ésaïe chapitre 22 et le verset 22, alors que vous ne connaissez pas par cœur certainement. Il est question de la clé de David. La clé de David, vous savez qu'une clé, c'est une expression, c'est un symbole d'autorité. Dieu nous a donné une mesure d'autorité en Christ. Et ici, donc, il est question de cette clé de David. Quand on ouvre, personne ne peut fermer. Quand on ferme, personne ne peut ouvrir. Et cette personne, cette servante de Dieu, elle a fait un constat intéressant parce qu'elle a dit, quand nous pensons à une clé, nous pensons surtout à ouvrir avec elle des portes fermées. Mais il existe également des portes ouvertes que nous devons fermer, fermer aux puissances des ténèbres. Fin de citation. Alors, demande-toi ce matin, est-ce qu'il y a des ouvertures dans ma vie? Est-ce que je donne avantage à mon ennemi d'une manière ou d'une autre? Alors, je voudrais ici citer un exemple tiré d'un livre de Jamie Buckingham. Jamie était pasteur, mais elle était aussi auteur. C'est un écrivain doué. Le Seigneur lui a donné vraiment un don. Et dans le livre « S'interroger pour vivre », il cite un incident. Il avait une secrétaire donc, qui dactylographiait donc, ses manuscrits. Elle s'appelait Elaine. Et quand il est allé la voir avec un manuscrit, il s'est rendu compte que ses mains étaient complètement déformées par l'arthrite. Jamie ajoute « J'ai toujours cru » que arthrite, arthrose, rhumatisme, etc., sont en rapport avec des émotions, avec haine, non-pardon, etc., c'est-à-dire des émotions négatives. Bref, cette Hélène, pourquoi donc a-t-elle ses mains déformées comme ça? Parce qu'elle avait développé un véritable esprit de haine. Son père avait quitté épouse et famille pour une autre femme. Et la grand-mère d'Hélène, la grand-mère maternelle, a nourri une véritable haine dans le cœur de sa petite-fille pour son papa. Donc finalement, cette haine est devenue un véritable esprit et elle avait besoin d'être délivrée. D'ailleurs, elle a obtenu sa délivrance. Mais juste pour vous dire, Hélène, elle a ouvert une porte grande ouverte, elle a montré une ouverture qui a permis à l'ennemi des avantages. Et c'est contre ce genre d'avantages que nous devons donc nous opposer. Je voudrais parler ce matin de trois genres d'ouverture que nous devons surveiller, et vous les avez, nos yeux, nos oreilles et notre bouche. Alors, en ce qui concerne les yeux, qu'est-ce que vous regardez? Et vous savez, aujourd'hui, je dirais qu'un grand nombre de chrétiens offrent à l'ennemi des avantages par ce qu'ils regardent. Il y a, quand vous allez sur Internet, je me souviens donc, j'ai écouté juste récemment, réécouté un excellent message du Dr. John Lennox, un mathématicien, un scientifique, mais un chrétien convaincu, et il s'est tenu devant toute une armée de jeunes étudiants en Norvège, et il a dit, vous savez ce qui vous souille. Il y a juste un clic à faire, et vous êtes là où vous voulez être. Alors, autrement dit, et vous savez que la pornographie est devenue un véritable fléau, non seulement dans le monde, mais aussi dans l'Église. Et les résultats, donc les signes sont alarmants. OK, qu'est-ce que vous regardez? L'apôtre Jean, il parle de la convoitise des yeux. Et est-ce que vous savez que la convoitise des yeux alimente une autre convoitise, la convoitise de la chair? Et c'est la raison pour laquelle nous devons filtrer ce que nous voyons. Alors, les yeux, mais il y a aussi les oreilles. Qu'est-ce que nous écoutons? Quelles sont les musiques? Quelles sont les paroles que nous écoutons? Est-ce que nous écoutons la voix accusatrice de l'ennemi, condamnation? Est-ce que nous écoutons ce qui est négatif? Et finalement, nous avons la bouche. Et donc, la bouche de beaucoup de personnes est au service de l'ennemi par leurs critiques constantes, leurs jugements, mais aussi donc par le fait que je condamne les autres, que je manifeste de la jalousie. Alors, frères et sœurs, ce qui sort de notre bouche est important, peut être une ouverture pour l'ennemi. Et je pense maintenant au prophète Isaïe, que nous venons de citer. Isaïe, lors de son appel, il est tout simplement convaincu de son péché. Et il dit ceci, malheur à moi, je suis perdu, je suis un homme dont les lèvres sont impures, j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et j'ai vu le roi, le Seigneur, l'Éternel des armées. Frères et sœurs, il était conscient que sa bouche était au service de l'ennemi, donnant avantage. Alors ce matin, je voudrais encore ajouter une quatrième ouverture, et c'est notre cœur. Vous savez que notre ami, alors non, nous ne sommes pas encore là, notre ami Salomon, le sage, qui nous a donné la plus grande partie des proverbes, il a dit « Ceci garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. » Et j'ai vu quantité de chrétiens chuter parce qu'ils n'ont pas tenu compte de ce conseil de garder leur cœur plus que toute autre chose. Et l'ennemi a pu déposer sa semence destructrice dans leur cœur. Il y a une deuxième action. Est-ce que vous voulez lire le verset 5? Nous lisons là, Ézéchias prit courage, il reconstruisit la muraille qui était en ruine et l'éleva jusqu'au tour, bâtit un autre mur en dehors, fortifia Milo dans la cité de David. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous interpelle dans ce passage? Alors, quand j'ai relu, je ne sais pas combien de fois j'ai lu deux chroniques, mais en lisant ce passage particulier, il y a quelque chose qui s'est détaché, pour ainsi dire, de ce verset. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait de quoi je parle? Non. Alors, la ruine, la muraille en ruine. Imaginez un peu, Jérusalem, la muraille en ruine. Et je voudrais vous dire, frères et sœurs, quand il y a ruine, donc il y a négligence, il y a insouciance, il y a laisser-aller, un laisser-aller coupable, et il y a un manque de vigilance. Alors, nous avons ici un roi qui prend conscience de cela et qui réagit. Et ce matin, je voudrais te poser la question, est-ce qu'il y a des ruines dans ta vie spirituelle? Par là, je voudrais dire, et ça c'est un constat que j'ai fait en tant que serviteur de Dieu, on commence à négliger certains aspects, certaines habitudes, bonnes habitudes que nous avons eues dans notre vie spirituelle, qui nous ont permis de grandir, qui nous ont permis de tenir bon, et graduellement, nous les avons délaissés. Et donc, un de ces points, ça c'est le culte personnel. Régulièrement, en tant que serviteur de Dieu, quand je pose la question, je m'aperçois qu'innombrables sont les chrétiens qui négligent la pratique du culte personnel, et ceci sur une base régulière. Frères et sœurs, c'est là le secret de la croissance spirituelle. Et dans un deuxième temps, je voudrais dire la lecture de la Bible en général. Est-ce que vous savez que vous pouvez lire la Bible dans une année si vous prenez un peu de temps, un peu moins de temps pour votre télé et pour peut-être d'autres activités qui ne sont pas vraiment nécessaires et vous consacrez à la lecture de la parole de Dieu. Il y a de ceux qui ont suivi le cours Equip de John Maxwell, qui est un spécialiste en leadership. Et dans une des leçons, il parle de pasteurs, de responsables, de leaders qui ont chuté et qui ont perdu leur ministère. Et on a fait un sondage. Et dans cette leçon particulière, il parle du sondage. Parce qu'on voulait savoir qu'est-ce qui a amené ses serviteurs de Dieu à chuter et donc à faire une chute morale. Et vous savez, il y a un point qui revenait dans beaucoup de réponses, c'était « nous avons négligé notre relation avec Dieu, une relation au quotidien ». Qu'en est-il de toi, mon frère, ma sœur? Est-ce que la muraille du culte personnel, la muraille de te nourrir, de t'alimenter de la parole de Dieu est en ruine? Ce matin, je voudrais vraiment t'encourager dans ce cas-là à t'occuper de ces ruines, exactement comme l'a fait notre ami Ézéchias. Voilà, et puis vous pouvez méditer vous-même sur la deuxième partie du verset 5. Il prépara une quantité d'armes et de boucliers. Donc, je ne voudrais pas trop tarder là-dessus. Vous pouvez donc vous-même méditer. Et nous allons aborder encore le troisième point, c'est-à-dire le message d'encouragement de notre ami Ézéchias pour ses leaders, ses officiers et probablement le peuple. Alors, tout d'abord, je voudrais vous dire, ce n'était pas juste un speech de motivation. Vous savez, malheureusement, aujourd'hui, il y a bien des pasteurs qui ne prêchent pas vraiment la parole, c'est de la motivation, ce qu'un inconverti peut aussi faire. Non, il a eu un message du cœur de Dieu pour le cœur de son peuple. Et nous allons lire ensemble, encore une fois, les versets 7 et 8. Je vous invite donc à lire ces quelques versets encore. « Fortifiez-vous et ayez du courage, ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Car avec nous, il y a plus qu'avec lui. » Est-ce que tu veux le personnaliser? « Car avec moi, il y a plus qu'avec lui. » Alors, avec lui est un bras de chair, et avec nous qui? L'Éternel notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple eut confiance dans les paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Et frères et sœurs, ce message nous est destiné. Nous aussi, nous n'avons pas besoin d'avoir peur. Et d'ailleurs, est-ce que vous avez noté, alors si vous lisez bien, je vois ici trois exhortations ou trois recommandations et un constat extrêmement positif. On va le voir ensemble. Et donc, c'est toujours la même chose qui m'arrive ici. Voilà. OK. Alors, je voudrais... Trois choses. Nous devons nous fortifier. Nous devons faire preuve de courage et nous ne devons pas craindre quoi que ce soit. Permettez-moi de retrouver mes repères, mes pères et mes repères. Voilà. Alors, quand nous parlons de ce message d'encouragement, donc je voudrais particulièrement vous poser la question. Donc, prenons les trois. Je voudrais insister sur le premier point. Comment nous fortifier? Comment te fortifies-tu, mon frère, ma sœur? Qu'est-ce que tu suggères? Quel est ce qui t'aide le plus dans ta marche spirituelle? Ce qui t'aide à rester debout, de résister aux tentations du malin et de rester debout même quand l'ennemi tire ses traits enflammés contre toi. Je voudrais que tu réfléchisses toi-même un peu là-dessus, mais je crois que nous connaissons déjà en grande partie la réponse. Mais voilà le constat positif, nous avons déjà insisté là-dessus, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Et frères et sœurs, je voudrais vous dire, c'est vrai aussi pour nous. Je ne connais pas tes combats actuels, tes difficultés, tes problèmes, l'adversité. Je voudrais tout simplement te dire que tu as un Dieu sur lequel tu peux compter, qui combattra aussi pour toi et qui est pour toi. Alléluia. Alors, vous savez, l'homme qui nous a envoyés sur le champ missionnaire, le fondateur de notre mission, à une occasion, il a dit ceci, Dieu et moi, nous sommes toujours dans la majorité. Tu peux le dire maintenant à ton voisin. Dieu et toi, tu es toujours dans la majorité. Est-ce que tu le crois? C'est vrai. Alléluia. Alors, j'ai une dernière pensée avant de terminer. Je ne sais pas si vous avez noté. Bon, c'est vrai, il faudrait lire aussi la suite. Mais je me suis aperçu que le roi Ézéchias, malgré ce qui lui arrive, malgré les actes de fidélité, il assume bien l'attaque de l'ennemi. Autrement dit, je ne trouve aucune trace d'amertume dans son cœur envers Dieu. Je n'entends pas d'accusation, mais Dieu, je t'ai servi, et voilà la façon dont tu me récompenses, rien de cela. Au contraire, je dirais que Ézéchias reconnaît que finalement, ce qui lui était arrivé lui servait, était utile pour lui. Et cela me rappelle cette déclaration que vous m'avez entendue dire de nombreuses fois. Est-ce qu'on va l'afficher encore? C'est-à-dire, nos épreuves nous rendent soit bitter, soit better, soit amer, soit meilleur. Et dans le cas d'Ézéchias, son épreuve l'a rendu meilleur. Qu'en est-il de toi? Alors, ce que je voudrais vous recommander, relisez ce passage qui nous a servi de méditation ce matin. Lisez non seulement les premiers 8 versets, mais lisez le livre de Chroniques. Le premier et le deuxième. Le premier, le commencement est un peu ardu puisque ce sont de longues listes généalogiques. Mais je les lis quand même, chaque fois de nouveau. Mais je voudrais surtout que vous lisiez notre passage à la lumière d'une déclaration de l'apôtre Paul que voici. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Autrement dit, ces 8 versets que nous venons de lire servent à notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions quoi? Nous possédions l'espérance. Alléluia. Puisse le Seigneur vous bénir. Et je vous invite à vous mettre debout. nous allons chanter et j'ai choisi un vieux chant sur les ailes de la foi. Je suis vraiment très réceptif pour les chants récents, mais je trouve qu'on peut trouver de magnifiques chants sur les ailes de la foi. Et tandis que nous chantons ce chant, que vous allez voir affiché dans un instant, si tu as besoin de la prière, si ce matin tu dis, il y a des ruines dans ma vie, j'ai négligé certains aspects, ou j'ai des ouvertures qu'il faut boucher, qu'il faut fermer, il y a des trucs dans ma vie qui donnent un avantage à l'ennemi. Si tel est ton cas, approche-toi tandis que nous chantons ce chant et on va prier avec toi. Alors, quel est ce chant? Non, ce n'est pas ça. À de nouveaux combats. À de nouveaux combats. Alors, je ne sais pas s'il y a ici, mais bien sûr, donc. Alors, je ne peux même pas te donner la tonalité, j'ai oublié de regarder. Mais bon.